Chapitre 5 À la pelouse. La vie que Sheldon et les siens menaient à la pelouse s'écoulait très paisiblement. Georgie se jugeait très heureuse d'être tombée sur une compagne qui n'avait pas sa pareille pour faire d'un bout de chiffon et de deux bouts de dentelle les plus jolis chapeaux du monde. Diana avait en effet cette adresse, cet esprit de ressource que développent les nécessités d'une vie errante et accidentée. Elle avait appris le français à une table d'hôte et à une autre l'allemand. Elle avait pris des leçons de maintien dans les salles de concert et des leçons de toilette aux courses. Sincèrement reconnaissante de l'affection désintéressée que lui montrait Charlotte, elle s'efforçait de satisfaire son amie et sa famille. Et elle y réussit admirablement. Mrs. Sheldon se plaisait infiniment mieux dans la société de sa fille, depuis qu'elle ne se sentait plus tenue en haleine du soir au matin par les mille curiosités de son jeune et vivant esprit. Elle aimait à rester paresseusement assise dans son fauteuil, pendant que les jeunes filles bavardaient en travaillant. Lorsque, pendant l'été, la peur de la chaleur lui faisait prendre la promenade en grippe, elle pouvait rester étendue sur un sofa à lire un roman ou écouter le ramage de ses petits oiseaux. Charlotte et Diana sortaient ensemble, suivies par un garçon en livrée, lequel, n'étant pas plus qu'un autre à l'abri des faiblesses humaines, restait souvent en arrière, regardant les enseignes, les boutiques ou les caricatures du punch à la devanture des librairies. Sheldon se faisait un devoir d'être agréable à sa belle-fille toutes les fois que cela ne le dérangeait pas. Et comme il ne suffisait pour cela que de quelque argent, il s'y laissait très facilement aller. Ses préoccupations personnelles l'absorbaient trop pour qu'il eût le loisir de s'occuper des affaires des autres. Il ne posait jamais aucune question sur ce qui concernait la compagne de sa fille. Mais il était néanmoins surpris de voir qu'une belle personne, si bien élevée, pût se contenter de s'asseoir à sa table dans une situation dépendante sans être payée. « Votre amie Miss Paget a l'air d'une duchesse, » dit-il un jour à Charlotte. « Je pensais que généralement les jeunes filles choisissaient pour leur tenir compagnie une jeune personne d'une pauvre tournure, mais il semble vraiment que vous ayez trouvé la plus belle fille de la pension. » « Oui, elle est très bien, n'est-ce pas? Je voudrais, papa, qu'un de vos riches messieurs de la City eût l'idée de la prendre pour femme. » Miss Halliday avait consenti à appeler « papa » le mari de sa mère, bien qu'il lui fût pénible de prononcer ce nom qu'elle jugeait trop affectueux. Elle avait tant aimé l'expansif Tom que c'était uniquement pour plaire à la pauvre Georgie qu'elle avait pris sur elle de donner à un autre ce nom. « Mes messieurs de la City ont mieux à faire que d'épouser une jeune fille sans le sou. Pourquoi n'en cherchez-vous pas un pour vous-même ? Je n'aime pas les hommes de la City, » dit vivement Charlotte. Puis, en manière d'excuse, elle ajouta en rougissant, « Au moins la plupart d'entre eux, papa. » Diana avait attendu pour répondre à la lettre de Valentin que son sort fut fixé. Mais elle lui écrivit aussitôt qu'elle fut établie à la pelouse et lui fit part de son changement de situation. « Je pense que papa ferait mieux de me laisser aller le voir à son logement, quel qu'il soit, » écrivit-elle. « Personne ici ne connaît précisément mon histoire, et comme il est possible que Mr. Sheldon ait eu l'occasion de rencontrer mon père quelque part, il vaudrait mieux qu'il ne vînt pas ici. Je ne puis moi-même dire cela à mon père, mais peut-être que, sans le blesser, vous pouvez le lui suggérer. Vous voyez que j'ai fait des progrès dans l'art de me conduire, que je suis devenu plus sage, » et que j'apprends à avoir soin de mes intérêts, comme vous me l'avez conseillé. Je ne sais si cela peut contribuer au bonheur, mais je ne crois pas que cela puisse nuire considérablement. Le mois d'août approchait de sa fin lorsque le capitaine et son protégé arrivèrent à Londres. Valentin insinua qu'il serait sage d'éviter de compromettre Diana dans sa nouvelle situation en cherchant à renouer leur rapport passé. Mais Horatio ne pouvait admettre une chose pareille. Ses plus brillants succès dans la carrière aventureuse avaient eu pour origine des rapports accidentels avec des gens comme il faut. Or, un homme qui pouvait donner à sa fille le luxe d'une dame de compagnie devait nécessairement être de cela, et le capitaine n'était pas disposé à laisser passer par scrupule l'heureuse occasion qui s'offrait à lui. Georges se trouvait à dîner à la pelouse le jour où Horatio se décida à y aller rendre visite. Et il se promenait dans le jardin avec les deux jeunes filles lorsque le capitaine et Valentin furent annoncés. « Je suis le père de Miss Paget, » avait dit le capitaine au domestique. « Ayez la bonté de me conduire directement à elle. » Paget était un trop vieux tacticien pour ne pas savoir qu'au moyen de cette entrée familière dans la maison, il s'y mettrait tout de suite plus à son aise qu'en s'adressant d'abord à Sheldon. Il avait aperçu le petit groupe dans le jardin et il avait pris Georges pour le maître de la maison. Diana devint pâle, puis rouge, puis redevint pâle lorsqu'elle reconnut les deux visiteurs. Elle ignorait même qu'ils fussent de retour en Angleterre. « Papa !» s'écria-t-elle, et elle lui tendit la main assez froidement à ce qu'il sembla à Charlotte, qui s'imaginait qu'un vrai père devait toujours être l'objet d'une tendresse passionnée. Mais le capitaine ne pouvait se contenter de cet accueil froid. Il entrait dans ses convenances d'être extraordinairement paternel ce jour-là, et c'est pourquoi il prit sa fille dans ses bras et se mit à l'embrasser avec un redoublement d'affabilité, ce qui ébahit tout à fait celle-ci. Après s'être abandonné pour un moment à cette expansion, il quitta brusquement sa fille. Comme s'il se fût rappelé tout à coup ses devoirs de gentleman. Il prit une pause, se découvrit et salua Miss Halliday et George. « Mr. Sheldon, je présume. »« George Sheldon, » répondit celui-ci. « Mon frère Philippe est au salon. Tenez, le voilà qui nous regarde. » Et comme il disait ces mots, Philippe fit son apparition dans le jardin. C'était par une de ces chaudes soirées lors desquelles la plus délicieuse des villas est une étuve. Aussi, dans les jardins environnants, voyait-on quantité de gens qui se promenaient nonchalamment. Sheldon venait voir quel était ce gentleman qui venait d'embrasser la compagne de sa fille. Le capitaine saisit ce moment pour se présenter, lui et son ami Hawkhurst. Cela fait, Sheldon et le capitaine se mirent sans façon à causer tous deux, pendant que les deux jeunes filles suivaient lentement l'allée sablée, Valentin marchant à côté d'elles. Georges les suivait, et tout en mâchant une tige de géranium, il se reportait aux obscurs souvenirs qu'il avait récemment réveillés chez les anciens habitants au sujet de ses recherches généalogiques sur les Haygarth. Les deux jeunes filles se promenaient à la mode de la pension, le bras de Charlotte passé autour de la taille de son amie, l'une et l'autre étant vêtues de mousseline blanche, et dans la demi-obscurité de cette soirée d'été, on eût pu les prendre, avec un peu d'imagination et de bonne volonté, pour deux sylphides. Hawkhurst se sentait transporté dans une atmosphère toute nouvelle, en se voyant dans ce jardin avec deux blanches robes à son côté. Il lui semblait que Diana, entourée par le bras de Charlotte, avec ses manières réservées, était un être nouveau, tout différent de cette Miss Paget dont les regards fatigués l'avaient fixé d'une si étrange façon dans les salons du Kurzal belge. La conversation fut d'abord assez languissante. On agita la question de savoir si cette soirée n'était pas plus chaude que celle qui l'avait précédée, et si ce n'était pas en réalité la plus chaude de l'année. Mais la glace fut bientôt rompue. Hawkhurst se mit à parler de Paris sur un ton familier et entendu. Miss Halliday n'y était jamais allée. Puis du livre nouveau, de la dernière pièce et de la dernière mode des chapeaux, car c'était un des talents de ce jeune drôle de pouvoir parler de tout et d'être à son aise partout. Charlotte écoutait en ouvrant de grands yeux la conversation animée de l'étranger. Elle était lasse des insipides propos des gros bonnets de la City, de la grande entreprise avortée et du taux de l'argent et des chances de la compagnie, etc. C'était une chose toute nouvelle pour elle d'entendre parler de romans, de théâtre et de chapeaux par un monsieur, et de voir qu'il existât des hommes qui pussent prendre intérêt à ses fantaisies. Elle était enchantée de l'amie de Diana, et c'était elle qui, de temps à autre, encourageait Valentin par de petits « oh » ou de petits « ah » pendant que Miss Paget demeurait silencieuse et pensive. Ce n'était pas ainsi que Diana avait espéré retrouver Valentin. Elle le regardait de temps en temps pendant qu'il marchait à son côté. Oui, c'était bien son ancien visage qui aurait été si beau s'il avait révélé quelque émotion, mais qui décourageait la sympathie sous son masque de glaciale impassibilité. Diana le regardait et se rappelait leur séparation par cette froide matinée dans la gare de Spa. Il l'avait laissé partir pour la grande et terrible bataille de la vie, sans montrer plus d'émotion que s'il l'eût envoyé en voyage d'agrément. Une année s'était écoulée, et elle le retrouvait avec son même air d'indifférence, et il bavardait à côté d'elle de mille niaiseries avec une autre femme. Pendant que Valentin causait avec la belle-fille de Sheldon, le capitaine s'efforçait d'être agréable à ce gentleman lui-même. Lord Lytton a dit quelque part « Il y a quelque chose de singulier, en quelque sorte de mesmérique, dans les rapports entre deux natures mauvaises. Mettez ensemble deux hommes honnêtes, et il y a 10 à parier contre 1 qu'ils ne se reconnaîtront pas comme honnêtes gens. Des différences de tempérament, de manière, d'opinion politique les empêcheront de s'apprécier réciproquement. » Mais réunissez 2 coquins, vous les verrez s'entendre immédiatement. Que nos 2 hommes fussent ceci ou cela, ils ne tardèrent pas à être à leur aise l'un et l'autre. Les combinaisons financières de Sheldon étaient parfois très compliquées, et pour les réaliser, il avait parfois besoin d'aide habile et souple. Sheldon était constamment en quête de quelque chose ou de quelqu'un qui pût servir ses intérêts pour le présent et l'avenir. Il comprit très vite que le père de Miss Paget était un individu avec lequel une invitation à dîner ne serait pas perdue. « Venez manger une côtelette avec nous, demain à 6 heures, » dit-il en quittant le capitaine. « Avec votre jeune ami, Mr. Hawkehurst, cela va sans dire. Les 2 jeunes filles feront de la musique. Elles ont beaucoup de talent, dit-on. Pour ma part, je l'avoue, je n'y connais rien. » Paget accepta l'invitation avec la même grâce qu'elle lui avait été présentée. Ces espèces d'hommes ont à se lier une facilité tout à fait extraordinaire. Imaginez, si vous voulez, les tigres du Bengale se serrant la patte dans les jungles, les loups se faisant des amabilités dans une clairière, sur la carcasse d'un pauvre agneau, les âpres éperviers se frottant le bec, doux baiser, après avoir mis à sac un nid de colombes innocentes. Et vous aurez quelque idée de nos 2 personnages. Les 2 gentlemen se retirèrent. Valentin donna une poignée de main à Diana et salua gravement Charlotte. Georges jeta sa queue mâchée de géranium pour dire bonsoir aux visiteurs, puis il les reconduisit jusqu'à la porte du jardin. « Ce Sheldon paraît être un très habile homme, » dit le capitaine à Valentin, pendant qu'ils se dirigeaient vers les jardins de Kensington, qu'ils avaient à traverser pour se rendre à Chelsea, où le capitaine avait trouvé un logement possible. « Je serais curieux de savoir s'il a quelque lien de parenté avec ce Sheldon qui est en rapport avec des prêteurs d'argent. »« Comment, avec le Sheldon de Gray's Inn ?» répondit Hawkehurst. « Il nous sera facile de nous en assurer. » Après cette soirée, Paget vint très souvent à la pelouse. En plus d'une occasion, Sheldon trouva dans le capitaine un auxiliaire utile. Et les rapports entre le respectable agent de change et l'aventurier prirent peu à peu un caractère tout à fait affectueux. Diana était stupéfaite de voir un homme aussi honorable que Sheldon donner la main à son père. Mrs. Sheldon et Charlotte étaient enthousiasmées du capitaine et de son protégé. Ces 2 bohèmes, sans sou ni maille, savait bien mieux plaire aux femmes que les riches négociants de la City, les convives ordinaires de Sheldon, qui ne savaient que boire très longuement le porto de la maison, tandis que dans le salon, leurs femmes faisaient tout ce qu'il est humainement possible de faire pour endormir Diana et Charlotte. Le capitaine, lui, tournait à l'adresse de Mrs. Sheldon les compliments les plus fleuris, et lui racontait les petits scandales du grand monde, les histoires des élégants qu'il avait fréquentés autrefois. La pauvre et simple Georgie avait pour lui ce sentiment de respect qu'inspire à une bourgeoise élevée à la campagne un homme qui a en lui ce « je ne sais quoi » qui révèle la haute naissance et la bonne éducation, et que 50 ans de dégradation ne saurait effacer. Charlotte ne pouvait non plus dissimuler sa sympathique admiration pour une personne dont les allures étaient tout autres que celles des hommes qu'elle avait rencontrés jusqu'alors. Il est vrai que, dans les moments difficiles, c'était parmi les femmes que le capitaine avait toujours rencontré ses appuis les plus fermes et ses dupes les plus faciles. Ç'avait été pour le capitaine un triste jour que celui où ses amis lui avaient refusé 5 livres. Mais celui où leurs épouses avaient fait de même avait été un jour bien plus triste encore. Valentin venait aussi très souvent à la pelouse, quelquefois avec son patron et ami, quelquefois seul. Il avait pour ces dames toutes sortes de petites attentions. Il leur apportait tantôt un roman français, choisi bien entendu parmi ceux qu'une femme peut lire, tantôt une loge pour quelque théâtre prodigue de billets de faveur. Parfois, il rencontrait les deux jeunes filles lors de leur promenade du matin au jardin de Kensington, et il les accompagnait sous les allées ombragées jusqu'à la porte. Une si grande partie de sa vie s'écoulait à attendre des chances nouvelles qu'il pouvait bien prendre quelques heures dans la société des femmes. D'ailleurs, il semblait que celle de Diana et de son amie ne lui déplût pas. Ce n'était pas Miss Paget qui était heureuse de ses visites et de ses assiduités. Elle voyait Valentin presque tous les jours et elle se sentait malheureuse. Elle le voyait, oui, mais une autre femme se trouvait entre elle et lui. Si sa voix devenait plus douce, son regard plus tendre, c'était peut-être Charlotte qui en était la cause. Qui pouvait même dire si ce n'était pas pour Charlotte qu'il venait aussi souvent et restait aussi longtemps? Diana lui jetait un regard irrité et triste lorsqu'elle s'imaginait que c'était Miss Halliday qui l'attirait. Hélas, oui, c'était Charlotte, Charlotte brillante et heureuse, et bien faite pour troubler le cœur le plus sec. Que devenait la sévère beauté de Miss Paget devant les charmes exquis de sa jeune compagne? Diana se sentait glacée en suivant jour après jour les progrès de l'ascension qu'exerçait sur Valentin cette écolière ingénue. Ce qui rendait Charlotte irrésistible aux yeux de Valentin, c'était précisément cette candeur débordante qu'il n'avait pas encore rencontrée chez les femmes qu'il avait jusqu'alors fréquentées. Il en avait vu beaucoup de belles, d'élégantes, de séduisantes, mais cette naïve nature de jeune fille, cette franchise d'enfant, était comme autant de révélations pour lui. Pour la première fois, un jeune cœur découvrait des trésors de pureté et de tendresse à ses regards blasés, et son cœur subissait une influence étrange et inconnue. Il avait eu de l'admiration pour Diana, il avait été touché de son affection, il l'avait aimée autant qu'il se croyait capable d'aimer une femme. Mais lorsque la prudence et l'honneur lui avaient conseillé de ne pas s'abandonner à ce penchant, la lutte ne lui avait occasionné ni déchirement ni désespoir. Il s'était dit qu'une union ne pourrait jamais résulter de son amour pour la fille du capitaine, et il avait refusé cet amour avec beaucoup de courage et de résolution, en dépit de langoureux et tristes regards qui auraient attendri tout autre que lui. « Cela vaut mieux pour elle et pour moi, » se disait-il. « Le temps mettra ordre à ses fantaisies de fillette. Il faut qu'elle attende avec patience que sa beauté lui apporte l'occasion de se marier richement. Quant à moi, si jamais je me marie, ce ne peut être qu'avec la veuve d'un riche commerçant. » L'influence du monde dans lequel son existence s'était découlée avait dégradé Valentin et n'avait pas peu contribué à l'endurcir, mais il n'était cependant pas complètement mauvais. Il eut une conscience plus nette de ses vices lorsqu'il commença à connaître la belle-fille de Sheldon. Il sentit très bien que, s'il n'avait pas été un fiancé digne de Miss Paget, il l'était encore bien moins de Charlotte, et que, s'il avait pu entrer dans les convenances de Sheldon d'user du capitaine et de lui pour quelques obscures affaires, il n'était pas homme à accepter un de ses aides pour gendre. Il comprit tout cela, et il comprit encore qu'en dehors de toute autre considération mondaine, il y avait entre Charlotte et lui un gouffre infranchissable. Que pouvait-il y avoir de commun entre le complice d'Horatio Paget et cette innocente jeune fille, dont le plus grand péché n'était peut-être qu'une leçon mal sue ou une dictée mal écrite? Lors même qu'il eût pu lui offrir une position, un nom qui ne fût pas flétri et des relations honorables, il sentait qu'il eût été encore indigne de son amour et impuissant à faire son bonheur. « Je ne suis qu'un mauvais drôle et un vagabond, » pensait-il dans les moments où il se méprisait le plus. « Si quelque fée bienfaisante venait à m'octroyer la plus magnifique villa de la terre avec Charlotte pour femme, je serais là de mon bonheur au bout d'une semaine ou deux. » Je m'en irai quelque soir à la recherche d'une partie de billard et d'un boc. Y a-t-il de par le monde une femme qui puisse me rendre l'existence supportable sans boc et sans billard ? Hawkhurst décida qu'il était de son devoir de s'éloigner de la pelouse et même d'éviter l'avenue où se promenait Miss Halliday. Il se le répéta une douzaine de fois par jour, ce qui ne l'empêcha pas de faire sa visite à la pelouse dès que l'ombre d'une excuse le lui permettait. Il se sentait faible, déraisonnable et malhonnête. Il savait qu'il semait les dents de dragon qui deviendraient autant de démons qui s'acharneraient à le poursuivre et à le tourmenter. Mais les yeux de Charlotte étaient si admirablement beaux, leur charme si terrible. Le vague espoir qu'il ne lui était pas tout à fait indifférent et une sorte de pressentiment d'un bonheur qu'il n'avait jamais connu l'encourageaient. Il affectait encore de paraître l'homme impassible et froid qu'il avait été, mais ce n'était plus qu'une apparence. En présence de Charlotte, il devenait naïvement le plus attentif des cavaliers. Il était comme fasciné par les illusions de l'amour qui donnaient aux jours, aux heures, un aspect imprévu. Le monde lui paraissait avoir subi un changement extraordinaire. La terre même sur laquelle il marchait et jusqu'aux prosaïques et tumultueuses rues de Londres. Bien qu'il l'ait connue depuis son enfance, les jardins de Kensington lui semblaient pleins de révélations nouvelles. Valentin, pour dire le mot, était éperdument amoureux. Ce triste aventurier, qui jusqu'à l'âge de 28 ans ne s'était abreuvé qu'aux sources les plus troublées de la vie, était dompté aux pieds d'une enfant. La découverte de cette faiblesse fut presque démoralisante pour Hawkhurst. Il était honteux de cet amour fou qui réveillait tout ce qu'il y avait de meilleur et de plus pur dans son âme. Il lutta résolument pendant quelque temps contre ce qu'il considérait comme une aberration, mais l'existence ne lui avait pas enseigné le moyen de dominer ses propres émotions, et lorsqu'il reconnut que la présence de Charlotte était devenue un des besoins de sa vie, il prit le parti de s'abandonner à son sort. Le courant qui l'entraînait était plus fort que sa volonté. S'il devait rencontrer des écueils cachés sous l'onde limpide, il n'avait plus qu'à en prendre son parti. Sa frêle barque sombrerait si telle était sa destinée. En attendant, il trouvait si doux de la sentir flotter voluptueusement sur l'écume d'une mer échauffée par le soleil qu'il fermait les yeux, s'endormait dans son beau rêve, se disant qu'il serait bien temps de se réveiller lorsqu'on rencontrerait quelque banc de sable ou quelque écueil. Miss Paget, elle, n'avait jamais connu une douleur pareille à celle qu'elle éprouvait en voyant chaque jour son bien-aimé Valentin tremblant devant son ami. Mais elle supportait bravement son martyre, dissimulant avec un art presque sublime les soupçons atroces que sa fierté native lui interdisait d'avouer.